There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Qu'il fasse des choix
économiques, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor poor, provided the rich are less rich.
Non.
Bonjour Lino.
Bonjour Quentin.
Alors on va surtout aujourd'hui, malheureusement, mes très chers auditeurs, dans une première partie que nous appelons de manière très joviale, tableau général de l'état merdique du monde, vous susurrer des mauvaises nouvelles, malheureusement. Car sur les marchés financiers, en ce moment, c'est pas la forme. En effet, depuis le début de l'année, les incertitudes se multiplient et le CAC 40 a plongé continuellement depuis janvier pour retourner à son niveau de l'année dernière. La crise financière est malheureusement de retour ou semble l'être. Près de 8 ans et demi après les premiers soubresauts de la crise des subprimes, les bourses mondiales plongent à nouveau. La santé des banques est préoccupante et l'économie réelle inquiète. Les marchés hésitent quant à la capacité de la zone euro à pouvoir retrouver la croissance et estiment possible que les États-Unis rentrent en récession, mais également s'inquiètent de la crise du champ chinois. Beaucoup de choses en fait.
Oui, et la question est donc de savoir ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers. La situation est un petit peu préoccupante pour certaines personnes, pour certains analystes. On parle beaucoup de la chute des cours, du cours des actions des banques en ce moment. Les valeurs bancaires se sont effondrées puisque les grandes banques européennes sont au cœur des préoccupations des investisseurs et dégringolent plus brutalement encore qu'elles ne l'avaient fait en 2008. Les banques italiennes et Deutsche Bank, la première banque allemande, celle qui se voulait le Goldman Sachs de l'Europe, sont particulièrement exposées. Les banques françaises sont même entraînées par le cours boursier alors même que leurs résultats sont plutôt excellents sur 2015. La BNP a annoncé il y a quelques jours un profit de 6,7 milliards d'euros et par exemple Natixis progresse encore.
Et malheureusement, pour essayer de commencer à tenter une première explication de cette chute des banques françaises alors que leurs bilans sont plutôt bons, on peut observer une déconnexion entre une sphère financière d'une part inondée de liquidités à la suite du quantitative easing et le reste de l'économie qui d'ailleurs n'est pas spécialement dynamique.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Les banques centrales, en donnant de l'argent à tout le monde, ont généré une forte hausse du prix des actifs, mais les difficultés chinoises et la persistance de la crise en Europe ont brutalement freiné cet élan haussier. Pour les banques commerciales, donc notre BNP et notre Deutsche Bank, en 2015, on a donc de très bons résultats liés à la présence de beaucoup d'argent sur les marchés, donc c'est la conséquence du QE, le quantitative easing. Mais comme elles ont massivement prêté de l'argent aux compagnies pétrolières et que le cours du baril n'est pas franchement à son meilleur niveau, oui, et il ne semble même pas prêt à remonter à long terme.
Oui, là on est à peu près à $30 le baril, c'est même moins cher que le baril dans lequel est stocké le pétrole.
C'est quand même embêtant. Eh bien, c'est pour ça que les marchés financiers s'inquiètent de la santé financière de ces institutions et du marché financier en général à long terme. Alors, la faute à qui ? Est-ce que c'est les banquiers centraux qui ont mal fait leur travail en injectant trop de liquidités ? Lino, qu'en penses-tu ?
C'est difficile à dire. Cet échec, ce n'est pas celui uniquement des banques centrales. C'est aussi celui des gouvernements qui se sont uniquement reposés sur la politique monétaire pour faire le travail de redressement de l'économie qu'ils auraient dû normalement faire en situation de crise. En se concentrant, les gouvernements se sont uniquement concentrés sur la réduction de la dette, ce qui a eu un effet de réduction de la croissance à l'échelle européenne en particulier. Évidemment, comme les Européens achètent moins aux Chinois, puisqu'il n'y a pas de croissance, les Chinois réduisent leur production, ce qui affecte leur croissance et renforce l'inquiétude mondiale sur les marchés.
Et ça, c'est du côté de l'économie réelle. Mais attention, ne jamais oublier que l'économie réelle et le monde de la finance sont étroitement liés. Donc, si la Banque centrale agit sur les marchés monétaires et financiers, c'est parce qu'elle ne peut pas, et il est très difficile pour elle, d'agir sur les marchés réels directement. Une anecdote qui était que Ben Bernanke, l'ancien gouverneur de la Fed, disait que le seul moyen vraiment efficace pour interagir directement avec les sphères réelles serait de prendre un hélicoptère au-dessus de Manhattan et de balancer des billets à tout le monde. Mais bon, solution un peu radical, non Lino ?
Oui, ça marche pas mal, mais bon, ça plaît pas trop aux monétaristes, quoi.
Ça plaît pas trop aux monétaristes, malheureusement. La banque centrale, justement, donc, ne peut pas agir directement. Alors, eh bien, on cherche à faire des incitations, à provoquer des impulsions sur les marchés financiers. Et malheureusement, ça dépend de manière très critique des anticipations propres des marchés. Or, depuis un certain nombre d'années, et ce malgré le volontarisme des banques centrales dont la BCE fait partie, cette dernière ne parvient pas à faire naître des anticipations positives. Elle a épuisé un à un tous ses instruments traditionnels.
Oui, c'était pour ça que sont nées les politiques monétaires non conventionnelles, qui étaient en fait le moyen pour la Banque centrale, d'abord la Fed et la Bank of Japan et ensuite la BCE, de continuer à agir sur l'économie malgré en fait l'impossibilité d'utiliser les canaux de transmission habituels, en particulier un taux d'intérêt qui était bloqué à la bande du taux zéro, donc à 0%. La croissance et l'inflation, malgré une injonction massive de liquidités sur les marchés, ne repartaient pas.
Les politiques monétaires prennent, pour être un petit peu schématique et didactique, principalement trois formes. On a d'une part les intérêts négatifs, d'autre part l'assouplissement quantitatif, et enfin ce qu'on appelle le fameux quantitative easing, dont on entend parler depuis un certain temps. L'objectif est en fait le même pour ces trois canaux, si l'on veut, ou ces trois manières, ces trois formes, c'est de détourner la demande de capitaux des actifs à faible risque, l'or par exemple,
et dont l'horizon ou les États souverains,
c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des bons allemands, les bonds allemands du Trésor, et dont l'horizon donc est de court terme vers des actifs plus risqués, les actions, les obligations privées longues, à horizon plus long et permettant de financer des investissements nécessaires à la reprise de l'économie.
Oui. Le premier volet des politiques monétaires qui a été appliqué en Europe, en fait, consistait à ce que Quentin appelait l'assouplissement qualitatif. C'est une méthode assez astucieuse, mais qui n'a en fait pas été très efficace. En temps normal, lorsque la banque prête de l'argent à une banque de second rang, donc la BNP, Natixis, lorsqu'elle a besoin de liquidité, elle demande une garantie. Cette garantie, c'est un actif bien noté, donc les bonds, comme tu disais, les obligations allemandes. Et pour ne pas s'exposer, la BCE ne va bien sûr pas accepter n'importe quel titre en garantie. En particulier, elle va refuser les titres grecs, parce qu'elle sait qu'ils ne valent rien. Mais en période exceptionnelle, elle peut accepter une classe plus large d'actifs afin que les acteurs financiers ne se précipitent pas tous vers les actifs non risqués et délaissent les obligations privées qui doivent financer l'économie. C'est cela en fait l'assouplissement qualitatif. Dans les faits, comme je le disais, en fait, ça n'a pas été très efficace et ça a peu influencé la demande de capitaux.
Et oui, Lino, ça n'a pas été très efficace. Et comme pour les taux d'intérêt négatifs, on a essayé un deuxième volet de politique monétaire non conventionnelle, ayant grillé la première cartouche du fusil. Et les effets existent, mais ont été assez limités. On va passer très rapidement dessus, puisque nous voulons nous focaliser aujourd'hui sur le troisième et dernière munition dont on aurait espéré qu'elle aurait marché, mais apparemment, ça va être plus compliqué, le quantitative easing, n'est-ce pas, Lino ?
Oui, alors ça a été assez tardivement appliqué, mais sans doute trop tard en Europe, mais c'est un point très intéressant des politiques monétaires. L'idée est que la banque centrale achète avec un calendrier précis, par exemple en Europe c'est 60 milliards d'obligations par mois, on achète avec un calendrier précis une série d'obligations. L'idée est de ne pas créer de surprises qui pourraient contrecarrer les plans de la BCE par exemple. Et elle achète vraiment beaucoup d'obligations.
Oui, par exemple, la Fed détient de manière ferme 2300 milliards de dollars de bons du Trésor américain, ce qui fait quand même pas mal.
Oui, c'est assez gros. En gros, c'est le PIB de la France.
Pour l'Europe, les chiffres sont un petit peu plus modestes, mais sont tout de même de 60 milliards qui sont achetés chaque mois par la BCE.
Oui, et en fait, cela permet de faire grimper les prix de ces actifs et ce qui a pour corollaire de faire chuter les taux d'intérêt sur la dette nouvellement émise des pays concernés. Parce que, en fait, c'est une relation proportionnellement inverse entre dette et entre prix des actifs et taux d'intérêt. L'idée est en fait d'assécher le marché de la dette pour que, au-delà des ratios obligatoires d'actifs sans risque dont les banques doivent disposer,
personne n'aille dessus.
Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est en fait réduire au minimum la détention d'actifs pour que les banques se dirigent vers des obligations et actions privées. Cela fera en fait du coup monter les prix de ces obligations publiques, ensuite privées, ce qui est bénéfique pour les entreprises qui souhaitent se refinancer puisque en fait cela signifie, hop, on revient à la relation inverse, que leur taux de financement diminue.
Money, 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 make us Et oui, comme Bruno Mars l'a suggéré à l'instant dans cette petite virgule culturelle, l'argent rend en effet tout le monde heureux.
Oui, parce qu'en fait, la plupart des actifs financiers déjà émis appartiennent aux ménages. Donc, une augmentation du prix des actifs est équivalente à un choc de richesse. C'est ce qu'on appelle en fait le canal du prix des actifs, un canal de transmission de la politique monétaire, qui se transmet à l'économie réelle en stimulant la richesse des agents. C'est là le principal intérêt du QE mené par les banques centrales. Puisque le revenu des agents ne progresse pas à cause de la récession, après tout, Quentin, pourquoi ne pas les rendre plus riches en stimulant la valeur de marché de leur patrimoine ?
Oui, tout à fait. Et en théorie, cela devrait avoir le même effet positif sur la consommation. Le même mécanisme, puisque les individus sont plus riches. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on fait quand on est plus riche ? On consomme plus, et en consommant plus, principe de la demande, on relance l'économie.
Voilà, et ça fonctionne bien dans les pays anglo-saxons, puisqu'en fait, les ménages sont assez présents sur les marchés financiers, et leur consommation réagit assez bien aux variations de richesse. Ça a toujours été le cas, enfin, déjà dès le 20e, 19e c'est un peu précoce, c'était déjà le cas. Par contre, en Europe, les actifs financiers sont très inégalement répartis parce que les taux de participation des ménages au marché financier sont très faibles. J'imagine, Quentin, que tu n'as pas d'action, toi.
Non, mais à vrai dire, je réfléchis à vous faire ouvrir un PEA, si tu veux tout savoir, d'accord, mon cher Lino, et histoire de perdre bien de l'argent, oui. C'est le bon moment.
D'accord, parfait. Et tu nous caches ton compte en Suisse, c'est ça, en fait.
C'est ça, mais ça, on en parlera dans quelques années, on n'est pas encore pressé.
D'accord.
On n'est pas encore pressé, Lino.
Donc, en fait, pour reprendre, l'effet positif des effets de richesse en Europe ne se diffuse pas à l'ensemble de l'économie, car vous, comme Quentin, comme moi, vous n'avez pas d'action. La bourse monte, mais rien ne se passe sur votre consommation.
D'autant que la volatilité du prix des actifs s'est envolée. Certes, les prix ont augmenté, mais les variations de prix se sont amplifiées. C'est ce qu'on appelle la volatilité, à la hausse comme à la baisse. Or, ceci inquiète beaucoup les marchés financiers. D'autant qu'une série de mauvaises nouvelles ont plombé l'optimisme. Les chiffres macroéconomiques américains sont décevants, notamment le chômage pour les faits les plus récents. Les chiffres européens sont mauvais depuis un certain temps, on le sait, Lino. Et le pétrole est très bas, c'est la surprise de cette dernière année. Toute une série de facteurs qui influencent de manière négative les anticipations des agents et qui font régner le doute sur les marchés financiers. Et quand les marchés financiers ont peur, ils réagissent violemment et c'est jamais très bon signe.
Oui, et d'ailleurs c'est à l'échelle de l'Europe entière, hein. Ce ne se passe pas qu'en France, hein. Le LSI, la bourse britannique, connaît une tendance similaire qui est en plus alimentée par la crainte de sortie de la zone euro.
Charlino, qu'as-tu à nous dire alors?
Non, juste pour terminer, hein, le problème fondamental avec le QE est qu'il s'agit d'une arme extrêmement efficace, mais dont les effets en moyen terme sont méconnus. Hein, c'est pour ça que pour l'instant, on est en tâtonnement. Hein. Le problème, c'est que en fait, les marchés s'habituent aux liquidités, ce qui explique que cette situation de doute actuelle sur la fin du QE. C'est en fait pas vraiment le moment de placer vos petites économies en bourse parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc,
on va les laisser sur un prêt, un bon prêt.
Oui, voilà.
Hein, un livret A, même si c'est pas rémunéré, même si ça gagne rien du tout, même si avec la CSG on se fait, il y a plus rien. On va les laisser sur un livret A.
Oui, c'est ça. Voilà. Mieux vaut rien gagner que tout perdre. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est au fond, on a une large baisse de la bourse, mais un scénario 2008 me semble à exclure. Hein. Je pense que c'est excessif de dire ça.
Si on s'appelle Patrick Artus, on aime bien les explosions de bulles obligataires, mais bon, c'est un scénario qui n'est pas majoritaire parmi les économistes.
Voilà, donc personne ne pense que ça va aller jusqu'en 2008, donc c'était juste pour clarifier la chose, et je te rends l'antenne, Clément.
Eh ben merci Lino, merci Quentin pour ce numéro de Tina. C'est un plaisir de retrouver l'émission sur Transistor. Il est 15h30 sur Transistor et on change de site. Bah oui, on passe de Descartes à Monod, puisqu'on va accueillir Baptiste et Léo pour nous parler de biologie dans quelques instants sur Transistor après une page de publicité. 6 jours après, toujours pas remis du gala ?
Oh, j'ai mal au crâne !
Cascada résonne encore en boucle dans votre tête ? Votre cerveau ne se remet pas ? N'hésitez plus. Prenez 500 grammes de galaspirine effervescent. Il se dissout en quelques instants, même dans les cubes rouges imbuvables. Alors que ce soit en prévision des prochaines soirées ou pour vous remettre du gala, reprenez le dessus. La gueule de bois ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
L'abus de gala est dangereux pour les études. Ceci est un message du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.